Bonjour, alors ici Autre Radio, Autre Culture. Aujourd'hui, nous recevons Léo Léonard, qui a eu une carrière très, très, très éclectique. Bonjour Léo.
Bonjour Marion.
Alors moi, je suis très contente de te recevoir, tout simplement parce que on te voit déjà depuis quelques temps dans ce studio d'enregistrement et pour des problèmes de micro, de matériel et autres. Et je me suis intéressée à ta carrière parce que tu as été guitariste, tu es toujours aussi passionné de guitare.
Oui.
Et tu as également eu, au moment où la musique a été extraordinaire dans les années 80-90, tu as eu un studio d'enregistrement. Donc j'aimerais que tu nous parles de tout ça. Alors tu as débuté comment ?
J'ai débuté, j'ai monté un groupe quand j'étais apprenti coiffeur en fait. Et donc j'ai monté un groupe qui, je pense que le premier nom qu'on a eu c'était les Zébulons. Et super nom, qui tue. Et donc, après, on a fait le tremplin du golf sous le nom des Starlings. D'ailleurs, je suis encore sur le site du golf. Il suffit aux auditeurs d'aller voir ce site qui s'appelle Golf Drouot, je ne sais pas quoi, qui est fabriqué par Jacques Mercier, l'ancien guitariste de Paul Naref dans les Dynasty Crisis, qui a fait un site d'enfer. Et donc voilà, je suis. J'ai donc 17 ans en 66, puisque je suis né en 49. Et donc je suis déjà sur les tremplins du rock. Donc j'ai fait des tonnes de groupes. Effectivement, j'ai fait un groupe qui s'appelait Apple Pie. Après, j'ai fait un groupe qui s'appelait Bacchus, où on a gagné toutes les coupes de France de rock, de machin, devant 1700 groupes. On a fait des tournées un peu à droite à gauche, avec les variations, avec des tonnes de gens comme ça. Et puis après, je suis parti au Canada, donc avec un groupe qui s'appelait Papouze à l'époque, qui avait les cheveux en couleur, très drôle. Et donc on est parti en avion, on est presque rentré à la nage. Il y avait un producteur, un ancien chanteur de rock en France qui s'appelait Teddy Ray, qui nous avait fait venir là-bas et tout était complètement... Les contrats, tout ça était bidon. Et le mec avait pas de pognon, il comptait vraiment sur nous pour gagner sa vie. Et nous, on croyait qu'il allait nous faire faire une carrière là-bas au Canada, quoi. Ça a été un peu épique. On a appris à manger une pizza pour 12 tous les 3 jours. Eh bien, à 20 piges, ça fait drôle quand même.
Quel style de musique vous jouiez à cette époque-là ?
Eh bien, Papouze, c'était une musique de rock, hein, bien sûr, mais plutôt évolutive. C'était plus pensé rock éclectique que rock'n'roll pur et dur, quoi, en fait.
Alors, comment s'est passée cette période de disco qu'on a eue en France et un peu partout dans le monde ?
Très simple. Après toute cette période de groupe, j'ai fait du bal et du cabaret. Et quand j'étais en cabaret, je commençais à voir des mecs qui passaient au cabaret, puis qui chantaient des trucs, Dalida, Machine, Trucmuche, machin qui passait. J'ai même accompagné Frank Sinatra, cher ami.
Wow.
J'ai commencé à faire des arrangements et je me suis retrouvé derrière des gens. Donc j'ai découvert un petit groupe de pieds noirs qui était de Constantine, qui s'appelait les Frères Nakache. Qui étaient des mecs qui étaient dans la fourrure à l'époque. Je me suis occupé d'eux pendant 10 ans et jusqu'à l'Imagine, où ils ont fait un gros tube avec ça. Alors le disco, très simple, j'ai commencé à accompagner des gens à droite, à gauche, plus ou moins connus au début. Et puis ensuite, j'ai fait une audition pour un blond, qui était une grande star en France, un blondinet. Donc je vais raconter une histoire d'ailleurs au niveau de cette audition. C'était pour Claude François, évidemment. On était 35 ou 36 à faire l'audition. On a commencé l'audition à minuit. Il nous avait donné rendez-vous à 10h du matin. Il est arrivé à minuit. Donc là, déjà, c'est dur à... Bon. Moi, j'étais prêt à partir. J'en avais ras-le-bol. Donc je lui dis, c'est pas parce que c'est Claude François que je vais être là comme un chien à attendre patiemment que ça... Et donc j'ai ma guitare, je suis prêt à partir, et il arrive, et je tombe nez à nez avec lui, et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu t'en vas déjà ? Je lui dis, je sais pas, on peut... il me dit, tiens, puisque t'as une grande gueule, tiens, tu vas passer le premier. Bon, je dis, merde, j'aurais mieux fait de... parce que quand tu passes le premier, évidemment, on retient les derniers, mais le premier, on l'a oublié déjà. Hein. Alors l'audition se fait, je dois attendre... 3 heures dans la salle d'attente, où là j'ai lu 200 matchs, 4 jours de France et donc le reste. Et puis il y a Bourterre, le parolier de Claude, qui rentre, qui s'occupait un peu de ses affaires. qui rentre dans la salle d'attente et qui dit « Claude voudrait revoir le moustachu ». On se regarde, sur les 36, on devait être à peu près une trentaine à avoir la moustache déjà. Donc il y en avait 6 qui étaient moins bien, on va dire ça comme ça. Après, Bourterre donne un adjectif supplémentaire, il dit « et grand ». Bon, là, sur les 30 qu'il y avait, il y en avait peut-être 25 de grand, quoi. Bon, donc il y en a 9 qui foutent le camp, ou je sais plus, 10. Et puis là, Claude François, excédé, arrive dans la salle d'attente, parce que lui était très nerveux et très, très impatient toujours dans sa vie. Et il dit « mais c'est lui !» et il me monte du doigt. Bon, alors je refais l'essai et il me dit « voilà, tu vas être avec nous, et etc. etc. » Alors j'ai mal vécu cette histoire-là parce que en fait, le chef d'orchestre de Claude François, qui est devenu un ami intime maintenant, qui s'appelle Slim Pesin, avait envie à l'époque de placer un de ses copains. Moi, il ne me connaissait absolument pas. Dans le car, en partant, aussi bien en allant au Royal Albert Hall faire le concert qu'il a fait énorme, là, et tout ça, ils m'avaient tous mis en quarantaine. Personne ne me parlait.
Ah oui, d'accord.
Rapport de force. Je suis avec Claudette qui me parlait un peu. Mais à part ça, bon, c'était pas désagréable. Et puis, quand on est arrivé au Royal Albert Hall, j'ai eu un genre de vengeance, sans le faire exprès. J'avais un peu fumé quelque chose qui fait rire. Et quand on est arrivé en répétition, c'était un titre que Claude faisait, je me souviens plus duquel, on avait refait tout le répertoire en anglais. C'était pour le Royal Albert Hall, c'est normal, il y a un public anglais. Donc on avait les choristes de Joe Cocker, on avait pas mal de gens sur scène, on devait être une trentaine. Et en répétition, dans un thème mineur que j'adore, il me fait faire un chorus de guitare. Allez, vas-y. Bon, je fais un genre de Santana, mais j'étais un peu explosé. Et je commence à partir dans les délires guitaristiques. Et à chaque fois que je finissais le chorus, hop, Claude-François levait la main et il disait à tout le monde « On reprend au même endroit ». Et il m'a fait reprendre 10 fois le chorus.
Ouf.
10 fois le chorus, mais pas par esprit de... En tous les cas, je l'ai pas pris comme ça. Pas par esprit de méchanceté, hein. Par esprit d'envie de prendre son pied avec un mec qui avait envie de jouer et qu'il aimait bien écouter. Je l'ai pris comme ça. Enfin, peut-être que je me gourre, j'en sais rien, mais je l'ai pris comme ça. Et d'ailleurs, plein de musiciens, quand on est sortis de la répétition, m'ont dit « Putain, t'as drôlement la cote avec le coq », parce qu'on l'appelait le coq.
Ah oui.
Oui. En train de gueuler à droite, à gauche, Claude François, par les musiciens, était appelé le coq.
Il était très intransigeant au niveau
complètement,
de...
Complètement, ouais. Mais bon, en même temps, il était tellement, tellement grand seigneur, tellement généreux, il était capable de payer à des gens, en sortant de répétition, le restaurant Maxime. Parce qu'il avait kiffé sur une répé.
Mais moi, bon, j'ai des souvenirs assez lointains de Claude François, parce que bon, c'était pas non plus mon truc. Hein,
et ni ton époque non plus, peut-être.
Non, c'était pas le chanteur. Bah,
c'était pas non plus mon...
Ce que j'admirais et ce que je ne retrouve pas, enfin que je ne trouve pas en France en général,
ouais,
c'est que j'ai toujours trouvé que le travail et les chorégraphies de Claude François étaient toujours excellente et pile poil. C'est-à-dire que c'était toujours dans un rythme précis, c'était impeccable, que l'on ne retrouve pas actuellement dans les chorégraphies.
Il y avait le sens du groove. Et le groove, c'est pas le tempo. Hein. Le groove, c'est la magnificence d'une partie du tempo qui te fait bouger. Et je me suis aperçu d'un truc, notamment dans le disco et dans d'autres trucs. C'est tous les gros tubes comme Earth, Wind and Fire ou tous ces trucs-là. On fait bouger les gens parce que dedans, il y avait deux grooves.
Oui.
Il y avait deux manières de danser ça, en fait. Il y avait deux pulses différentes. Et je me suis aperçu de ça. Et d'ailleurs, on parle du disco. Alors voilà, une méthode de travail de Earth, Wind and Fire. Est-ce que ça te brancherait de savoir comment ils bossaient ?
Oui, tout à fait.
Alors, très très simple. Ils faisaient une rythmique assez dépouillée sur un titre qui venait de composer. Là-dessus, l'arrangeur des Earthwind, un des frangins, écrivait les cuivres. Donc ça commençait à pétarader de partout, parce que les cuivres, c'est monstrueux. Dans tous les morceaux comme Fantasy et tout ça. Et après, les mecs, ils retournaient en studio, donc avec l'arrangement cuivre, pour refaire une rythmique, tu vois, qui était adaptée complètement au niveau des pulses. Qui était traficotée, qui était plus subtile, qui était, tu vois ce que je veux dire. Parce que le disco, c'est de la double croche, avec des silences.
Ouais.
Tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et après tu fais des silences devant. Alors, faire... Tu vois, c'est ces petits silences qui vont créer les pulses. Tu vois.
D'accord, oui.
Et chaque système, mais si l'auditeur là qui m'écoute, il veut faire du disco, il s'entraîne à faire de la double croche sur un tempo à 120 à la noire, et vas-y. Et après, il bloque ses cordes au moment où il fait des silences, tu vois. C'est un peu la technique de James Brown dans une majeure partie de ses titres.
Alors, tout le monde a comme image au niveau de la disco une période excessivement heureuse, joyeuse. Est-ce que toi, ça a été pareil à ce moment-là ?
Ouais. Ouais, c'était marrant parce que le disco, c'était une manière de... qui était gay. Il y a beaucoup de musiques disco qui sont très très gays. Sur non seulement sur les paroles mais sur la manière de d'écrire les titres en disco rappelle-toi des choses comme comment il s'appelait le garçon boucher là moi je l'appelais comme ça
François
non un américain qui adorait les flamants roses il faisait un titre qui s'appelait I Like the Wind t'écoutes tous ces titres-là, c'est vachement gay. T'as envie de danser, tu te lèves de ta chaise, il fait beau. C'est ça le disco pour moi. Mm-hmm. J'ai fait Céron aussi, j'ai accompagné Céron quand même pas mal d'années. Je l'ai fait à la grande époque de Supernature, Give Me Love, tout ça. Et c'est pareil, t'écoutes tout ce que fait Céron. C'est dansant et en même temps, il y a toujours ce côté pas noir, quoi. Tu vois ?
Oui.
C'est toujours un peu rosy-rosy, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça t'a... Est-ce que toi, tu étais quand même ouvert à des cultures comme Crosby, Stills, Nash & Young
Oui, est-ce que mais c'est plus ancien. C'est les années 70.
C'est les années 70, mais c'est la fin aussi. En 77, 78, c'est la fin.
Je ne les ai pas suivis jusqu'à là, moi.
Oui, d'accord.
Parce que... en 70, on aimait bien écouter Woodstock et compagnie eux et puis bien d'autres d'ailleurs. Moi j'étais dans les groupes de hard rock à l'époque. Moi j'écoutais Led Zeppelin comme tout le monde.
Oui.
J'ai fait la première partie aussi d'un groupe qui s'appelait où il y avait Ritchie Blackmore là comment ça s'appelle.
Je connais mais bon.
Deep Purple.
Deep Purple oui.
Voilà j'ai fait la première partie de Deep Purple d'ailleurs ils ont joué sur mon matos en plus.
Oui, mais eux, ils étaient considérés comme groupe très californien, enfin très...
Ah non, hard rock. Hard rock, mais hard rock littéraire, pas hard rock blues.
Ah oui.
Parce que Ritchie Blackmore, en fait, il enseignait le classique conservatoire de Londres. Et alors que Jimmy Page était un requin de séance, de studio, qui faisait vraiment dans la blues musique, la rock musique, comme Jeff Beck, toute oui. cette école-là. Et c'était pas du tout le même trip.
Alors,
Donc le disco, on va essayer de suivre une ligne directrice parce que c'est sinon on va s'égarer parce que là on vient de passer. En fait, il y a
parce que c'est concomitant quand même.
Non, il y a des pas du tout.
Il y a des choses qui
pas du tout. Ah non, ça n'a rien à voir. Parce que si tu veux, en fait, les gens de ma génération, ils ont subi le rhythm blues avec oui. Otis Redding, James Brown, tous ces groupes-là. Comment il s'appelait aussi il y en a 30 tonnes, tous les mecs de la Stax, de la Tamla Matown, même avec Little Stevie Wonder au début. Oui. Et après, on a bifurqué vers le blues. John Mayall, toute cette époque, Clapton avec les Cream, oui. Tout DJ ça, Jimi Hendrix avec Jimi Hendrix Experiences. Mm-hmm. Et puis, on a été balancé entre le rhythm and blues, qui était une musique complètement rythmique, après avec une musique un peu plus pentatonique des blacks qui souffraient là-bas aux États-Unis et donc si tu veux autant le rhythm and blues c'était plutôt les blacks qui avaient du fric autant le blues c'était plutôt les blacks qui étaient pauvres quoi c'est complètement vrai et après donc on est repassé au disco qui était une méthode un peu plus variété du rhythm and blues. Parce que pour moi, le disco a une connotation variété. Je trouve que c'est très variété, le disco.
Oui.
D'ailleurs, on peut chanter n'importe quel morceau de variété en disco. Alors que le blues, non, c'est pas... C'est ni dansant, ni...
J'ai des souvenirs. Nous, on était allés avec le lycée. Hein,
ouais.
Nous étions allés, donc 27 petits Français, on avait été invités à New Rochelle, à côté de New York.
Ouais.
Et j'avais été... je logeais dans une famille noire, catholique noire, il faut bien préciser. Et alors c'était amusant parce que quand on allait dans les soirées de blancs,
ouais,
on avait droit à la disco. Et quand on allait dans les soirées uniquement noires,
ouais,
c'était du rhythm and blues,
ouais,
systématiquement.
Ah ouais, ouais. Oui, bah oui.
Et ça, c'était en 60, en 76.
Ouais,
en 76.
D'accord. Bah ouais, ouais. Bah oui, Sam and Dave.
Ouais.
Il y en avait un paquet hein, à l'époque. Hein.
Alors, cette, je sais que quelques années après, dans les années 77, 78, 79, arrive en France la période punk.
Ouais, j'ai pas trop adhéré à ça, moi.
T'as pas trop adhéré?
Non. Non, parce que 78, je suis rentré avec Claude François.
Ouais.
79, j'étais avec Céron.
Mm-hmm.
Donc cette période-là, je l'ai vue, je l'ai entendue avec tous les groupes anglais, avec les premiers piercings, tous ces trucs-là, les tatouages, les machins. Il y avait un groupe qui sévissait aussi dans ces années-là, c'était Brian Selzer. Avec le groupe là, Stray Cat, dans les mêmes années à peu près. Hein.
Ouais. Mais ce qui était intéressant avec les Stray Cat, c'était que justement, alors qu'on était en pleine période punk, eux sont revenus à
un rock pur et dur des années 60.
Rock des années 60.
Ouais, ouais.
Et avec des
rock jazz d'ailleurs.
Rock jazz avec des enregistrements que j'avais trouvé fabuleux.
Ah oui, c'est fantastique.
Fabuleux.
Ah non, mais le guitariste Selzer. Il a rien à envier à un jazzman, hein, parce que c'est un boogeyman, quoi. C'est l'histoire de... Dans les années 47, il a enregistré.
Oui.
Et Selzer, c'est ça. Hein. C'est du boogie, hein. Ni plus ni moins.
Alors moi, j'étais dans la période punk, en revanche.
Ouais.
Donc,
d'accord. Alors les fringues noires...
Oui, avec les petits squelettes, les trucs.
Jeanne Masse, un peu, dans le look. Hein. Jeanne Masse, qui était en pleine période punk, qui était une punkette.
Qui était une punkette sans en avoir le chant.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'était
piqué à la variété en étant punk.
Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'avais suivi à l'époque des chanteurs comme Elvis Costello, Ian DeLui.
Oui, je le connais, Elvis Costello. Je lui ai loué du matos.
Ah oui,
ouais. Il est produit par le producteur des Stones, d'ailleurs.
Parce que c'est assez... Il était très hors norme aussi à cette époque-là.
Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'était le seul mec à jouer sur une Jazzmaster, Fender.
Ah oui.
Ouais. C'est connu pour ça, quoi. Ça fait partie de son look, parce que personne n'avait... C'était vraiment servi de cette guitare-là, d'une manière aussi flash que lui, quoi.
Alors, c'est amusant, parce que les années 80, on voit justement tout un... toute une série de types de musique qui passent. Alors, on est passé à la période punk.
Oui, après, New Wave.
Il y a eu la période New Wave. Ensuite, il y a eu la période Cold Wave.
Ouais,
et
c'est
puis,
ça.
Et ainsi de suite.
Avec les chanteurs qui parlaient un peu comme ça, quoi. C'est américanisé, quoi.
Ouais. Donc en fait les Sex Pistols etc ça a été très très court.
Ouais mais ils ont marqué grave hein, quand même.
Ils ont marqué grave mais ouais, ça a été très très court.
Oui ça a été court ouais.
Alors en France moi je me souviens quand j'étais étudiante j'avais des copains punk et eux ils étaient fanas de groupes comme la Souris Déglinguée et autres.
Oui je me souviens de ça.
Qui passaient au Gibus.
Je me souviens de ça.
Et qu'on allait voir.
Oui.
Mmh. Alors, pour la petite histoire, moi, ces fameux copains punk arrivaient avec des enregistreurs et ils faisaient des enregistrements pirates.
Ouais.
Et donc, ils nous distribuaient gratuitement.
Avec des Walkman stéréo, ouais. Là, à l'époque.
Oh, même pas. Même pas
ah bon,
à cette époque-là.
Pas, hein. Ah, ouais.
Et donc, ils nous donnaient des cassettes de... piratés de concerts de tous ces groupes punk français
d'accord, qui existaient
à l'époque.
D'accord.
Et je dis à Philippe, un jour je te ferai écouter ça, parce que ça vaut son pesant de cacahuète.
Et ben, dans les années 80, il y a le groupe Téléphone qui commence aussi.
Et il y a le groupe Téléphone qui commence aussi.
Avec Bijou, suivi de Bijou et de je sais plus qui.
Bijou, avec, qui reprend une des chansons de Dutron, l'histoire du Père Noël.
C'est ça. Et après, il y a Trust qui arrive aussi, qui sont
Trust,
aussi dans ces années-là. Hein.
Dans ces années-là également.
Et donc le rock français qui essaye de bouger à travers la punk musique. Il y a eu des couches comme ça par année assez... Moi franchement, je trouve que C'est bien le mélange des genres. Ça permet de d'ouvrir des portes qui restent totalement fermées quand on est dans une phase complètement hermétique. Je me souviens des années 90, entre 94 et 98, où là, il y avait que le rap qui marchait et Pascal Obispo. Il n'y avait rien d'autre qui bougeait. Oui. Et ça, c'était désastreux, quoi.
Ça a été la fin.
Ah, j'ai trouvé ça horrible.
Alors, c'est vrai que les années 80, je cite des groupes étrangers. On a les Queens.
Oui.
On a le groupe AA, ce fameux groupe suédois.
Ouais, ouais.
On a Aerosmith.
Oui.
Genesis.
Steven Tyler.
Oui, Genesis. Kraftwerk. Ouais. Simple Minds. Talking Heads.
Ouais, ouais. Oui, il y a beaucoup de groupes.
Tears for Fears.
Ouais, ouais.
The Cure, The Clash,
ouais.
Human League, The Jam. Mmh. Et puis, bon, il y a la suite avec les chanteurs comme David Bowie et tout qui continuent leur carrière phénoménale. Et en France, on a des choses. Donc, on a Téléphone. On a quand même Higelin qui arrive.
Ouais. Avec Pierrot Chérez à la guitare, que j'ai rencontré hier, qui était avec Higelin à la grande époque.
Qui était extraordinaire sur scène. Et Bachoum, qui
finalement... Et qui était le bassiste d'Higelin à l'époque?
Je ne sais pas.
Et qui est le compositeur de Luc Besson? Eh bien, Serra était bassiste d'Higelin à la grande époque.
Serra était bassiste d'Higelin?
Absolument.
Ah, d'accord.
Petite, hein. Donc, Pierrot Chérez à la guitare, Éric Serra à la basse, et puis le batteur, c'était un mec qui est resté avec Higelin.
D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais après tes enregistrements? Enfin, non, tes...
Chagrin d'amour, on est passé 3 fois ou 4 fois à l'Écho des bananes. On a fait pas mal de live en télé, parce qu'on en faisait pas mal à l'époque. Dieu merci, il y en avait un peu.
Ah, pour les auditeurs, explique-nous, Chagrin d'amour, je sais que c'est quelque chose de phénoménal à cette époque.
Ouais, c'est face à part d'une petite maquette chez Barclay qui fait que on est là en train de faire plaisir à quelqu'un qui est un mec qui s'appelle Greg qui fait beaucoup de publicité, tout ça. C'est un mec qui fait du doublage etc. qui fait des imitations et tout ça. Il y a un producteur qui est par là qui s'appelle Bourgoin, je crois que c'est Philippe. Et qui a sa petite amie, qui s'appelle Vanny, qui chantonne un petit peu, quoi. Alors il dit, mais dans ton truc, là, on pourrait pas mettre ma femme qui fait une petite voix comme ça, et puis toi qui parle et qui chante en même temps, ou je sais pas quoi. Puis, bon, il y a la maquette qui sort, chacun fait ce qui lui plaît avec Vanny, et puis Greg. Son vrai nom, c'est Grégory Ken. Je le dis parce qu'il est décédé aujourd'hui. Il est parti. Ça passe sur une radio, ça commence à cartonner, ça passe sur d'autres radios, tout le monde veut ce titre. À un tel point, c'est qu'on est obligé de faire l'album. Et donc, l'album se fait, et après, on a fait des lives avec, d'ailleurs, il y avait une partie des musiciens de Bachoum dedans, le batteur et le bassiste. Il y avait deux batteurs, puisqu'il y avait aussi le batteur de Balavoine, l'américain. Mmh. Et puis voilà, puis deux guitaristes, moi et Slim. Voilà, puis on a fait plein de trucs comme ça. Et puis il y a eu un deuxième album qui n'a absolument pas marché. Passé carrément à côté de la trappe. C'est la première fois qu'on faisait du rap en France.
Mais ça a marqué son époque.
Oui, ouais, c'était avant le rap, quoi.
Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, alors?
Après ça, je monte un studio dans ces années-là, parallèlement à ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est en même temps, avant, après. Je me souviens plus un peu de ce qu'on peut faire quand on est musicien, arrangeur et accompagnateur de stars. Et donc, je monte un studio et je commence à monter un studio pour moi, quoi, pour faire mes arrangements, pour écouter ce que je fais. Alors, ça démarre avec un petit 8-pistes à la maison. C'est très drôle, d'ailleurs, parce que j'enregistre les chanteurs qui viennent, je les enregistre dans mes toilettes. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce niveau-là, c'est qu'un jour, il y a un mec qui m'appelle pour que je lui fasse des arrangements sur des titres variétés, un peu classiques, d'ailleurs. Et je vois arriver le mec, un peu Jean-Yvan Rebrov, quoi, tu vois. Et donc, le mec, je l'ai presque rentré aux chausse-pieds dans les toilettes pour qu'il fasse sa voix. Elles étaient pleines, mes toilettes. Le mec, il est sorti, il était carré, quoi. Voilà, puis donc je monte un studio et qui s'est mis à grossir au cours du temps, parce que en fait, bah, tu commences à prendre un peu de la prestation de service au lieu de faire des arrangements pour toi, parce qu'il te manque toujours une réverb, il te manque toujours un micro, il te manque toujours un truc. Et ça, tu te dis, bah, c'est les mecs qui vont me louer le studio qui vont me payer ça, quoi, en fait. Et puis tu te fais piéger parce que tu abandonnes ton instrument, qui est la guitare, pour moi. Tu abandonnes tout et tu deviens ce qu'on appelle un boutiquier. Et c'est là où c'est grave. Quand tu es musicien, je parle.
Oui.
Donc moi, j'ai pas kiffé à être un ingénieur du son. Tu vois, j'ai kiffé à faire des arrangements, à faire de la musique, à faire des trucs comme ça, mais... Tourner les boutons sur un equalizer ou sur un potard, moi, ça me fait pas kiffer, quoi. Il y en a d'autres, ça les fait kiffer. Parce que ça correspond à une écoute, ça correspond à des fréquences, ça correspond à plein de choses. Moi, ça m'a pas kiffé du tout. D'ailleurs, quand je suis arrivé en haut du mât de cocagne, que j'avais tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie, c'est-à-dire une Nive, un machin, un truc, des micros Neumann dans tous les sens, des trucs, des reverbs 480, tout ce qu'on a rêvé d'avoir quand on a envie d'avoir un gros studio, comme à l'époque. Ben, je suis arrivé en haut du mât de cocagne et après m'être payé la Nive, j'ai arrêté 7 mois après. Parce que ça ne m'amusait plus. Parce qu'en fait, je suis plus un musicien qu'un patron de studio. C'est tout.
Alors justement, on va parler du studio, parce que ça t'a pris quand même quelques années.
Oui, 13 ans.
J'en revenais parce qu'on a eu une interview avec Alain Le Kim, qui cherche toujours la pièce d'excellence dans son travail. Ouais. La pièce technique, technologique, enfin l'outil parfait. Et est-ce que toi, tu as eu cette même propension à essayer d'avoir le meilleur matériel possible ?
Oui, j'ai essayé d'avoir le meilleur matériel possible, mais en soi, c'est une longue, longue histoire que les ingénieurs français et anglais connaissent. On ne sait pas forcément avec du bon matériel qu'on fait un super son, parce qu'on peut très bien avoir un matériel tout à fait petit, pas cher, et avoir le talent de ce qu'on écoute et le talent de ce qu'on manipule. Donc ça, je ne suis pas persuadé que ça arrange tout. Ça arrange, bien sûr, quand on part avec le même talent, c'est sûr qu'avec du meilleur matériel, le son sera meilleur. C'est clair, mais encore faut-il avoir le talent. Non, ce que je peux souligner aux auditeurs, c'est que la France a été un pays sous-développé en ce qui concerne les studios d'enregistrement pendant plus de 10 ans, voire même plus de 20 ans, parce que quand on enregistrait un chanteur en France, il y avait toujours la rythmique dans les chiottes, comme on dit dans notre métier, avec la voix bien devant pour qu'on entende bien les paroles. Et quand le même chanteur allait à Londres enregistrer, il avait la musique, enfin les instruments au même niveau que sa voix, et on comprenait carrément bien les paroles, quoi. Et là, on s'est posé toutes les questions du monde avec des tonnes d'ingénieurs pour savoir comment les mecs faisaient, si c'était fréquentiel, si c'était ceci, si c'était cela, et ça a duré des années. Parce que au niveau du regard sur une console, ça se voit pas vraiment. Mais il y a un astuce. Voilà. Et moi, cette astuce-là, je l'ai cherchée pendant 10 ans. Et je l'ai trouvée uniquement parce que j'ai engagé un ingénieur anglais. Mm-hmm. Voilà comment j'ai trouvé le bise. Alors, c'est très simple. Je vais donner le secret à tout le monde. Et c'est cadeau. Voilà. En fait, il suffit de mettre uniquement sur la panoramique, donc droite, gauche, bouton qui nous permet de... et qui s'appelle la balance donc dans les chaînes IFI et qui s'appelle la panne sur les consoles, il suffit de mettre uniquement la voix du chanteur au milieu. C'est-à-dire rien d'autre que la voix du chanteur à midi dans la phase mi-tard de la panne. Mmh. Pourquoi ? Eh bien, parce que la basse, on va la mettre à midi moins 2. La grosse caisse, on va la mettre à midi 2. Et tout comme ça. Tout très serré, hein, mais rien d'autre au milieu que la voix. D'ailleurs, ils ont inventé une machine aux États-Unis qui s'appelle Voice Eliminator, et en fait, qui a tendance à enlever donc la panoramique MIDI de n'importe quelle chanson pour se retrouver avec tous les instruments autour, puisque tous les Américains, les Anglais, ont toujours procédé comme ça.
Oui, c'est ce qu'on voit dans les...
Alors que les Français, eux, mettent la basse au milieu, la grosse caisse au milieu, vas-y, et il faut que le chanteur... Il passe par-dessus tout ça. Il faut savoir que quand on met une voix au milieu et qu'elle est sol, on gagne 7 dB sur la voix, sans rien toucher. Mm-hmm. Donc c'est énorme, 7 dB. Donc, nous, en France, quand on faisait un playback, après que la voix était enlevée pour que l'artiste puisse avoir son playback de scène, et ben là, on remontait les généraux. Mm-hmm. Parce qu'on était à moins 30 dB sur les vues. Tu vois ? Parce que c'était la voix qui était à 0 dB, mais le reste, c'était à moins 30. Tandis que les Anglais, qui eux sont à 0 dB sur la rythmique, ils enlevaient juste la voix du chanteur, mais ils touchaient à rien, parce qu'ils étaient toujours en plein dedans, quoi. Mm-hmm. Tu vois ?
Et c'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. D'ailleurs, y a des Anglais qui ont montré qu'on pouvait même chuchoter sur une chanson avec le baston derrière et qu'on entendait parfaitement les paroles. Quoi.
Et qu'on entendait parfaitement les paroles, tout à voilà. fait. Oui, oui.
Et nous, France, on a dû mettre à peu près 15-20 ans avant de s'apercevoir de ça. Quoi. Et c'est pour ça que les producteurs allaient tous en Angleterre pour mixer. Et aux États-Unis.
Pourtant, à chaque fois, quand on essaye de refaire... Quand on essaye d'enregistrer la méthode anglaise et autres, les Français sont tellement habitués à cet enregistrement français qu'ils veulent absolument avoir la voix devant avec, avec les percussions.
L'un n'empêche pas l'autre. Oui. On peut toujours pousser la voix un peu plus qu'elle peut être entendue. Mais la rythmique, il ne faut pas qu'elle sonne cacahuète, quoi.
Voilà, c'est ça.
Mm-hmm. Parce que le choix des sons quand on fait un album ou un titre, le choix des sons, il est quand même choisi avec un niveau tel que ça sonne, comme ça. Mais si on se met à baisser tout ça au niveau de la dynamique, ça sonne plus. Donc il faudrait réintégrer le choix des sons par rapport au manque de dynamique pour que ça tienne la route. Mais on le fait plus. On a choisi ça à plein pot, et après, au mix, on se retrouve à la cave. Donc un titre, un chanteur, il vit aussi sur sa rythmique. Il n'y a pas que le talent de sa voix qui rentre en jeu dans le fait que son titre est un tube. Il y a aussi ce qu'il y a autour.
Moi, j'ai toujours pensé que le problème de la rythmique en France faisait qu'on n'arrivait pas à dépasser les frontières françaises.
Ouais, oui, peut-être parce qu'on est des latins et qu'on n'a pas trouvé... On n'a peut-être pas trouvé chaussure à notre pied, tout simplement. On a tellement été baigné dans une culture anglo-saxonne que, surtout moi... Notre génération, je parle du baby-boom, en règle générale, on est né avec les Beatles et tout ça. Toute notre jeunesse, on a entendu que des groupes américains, anglais, machin, et que ça a continué sans arrêt, hein, évidemment. Peut-être que si on était né avec l'accordéon, peut-être qu'on aurait cette culture française qui est plus française.
Pourtant, lorsqu'on voit les... Parce qu'on en parlait justement avec Ken Biswell, il disait qu'au niveau de la France, on n'avait jamais assez travaillé avec ce qu'on avait comme fond musicologique régional. C'est-à-dire qu'on a des musiques, que ce soit en Normandie, ou que ce soit dans le Béarn, ou que ce soit par exemple en Bretagne, qui sont des musiques excessivement rythmées, qui n'ont rien à envier au rythme anglo-saxon, et qu'on n'a jamais utilisé dans nos musiques françaises.
Ouais, complètement. Ouais. Oui, tu veux parler des musiques de région. Musique régionale.
Oui, mais qui ont des rythmes...
Oui, Alan Stivell, tout ça...
Des rythmiques qui sont quand même très très modernes, finalement.
Oui. Mais bon, tu sais, on va dire qu'entre une balade irlandaise et un morceau d'Alan Stivell, il n'y a pas des tonnes de kilomètres non plus, tu vois. Donc, c'est pas... les Américains ou les Anglais, ils n'ont pas fait les tubes avec ce genre de choses, hein. Ils ont fait des tubes avec des musiques qui étaient davantage amenées par les Blacks, quand même.
Je ne suis pas sûre. Quand tu écoutes, par exemple, des Who ou les Stranglers et autres, il y a quand même une culture celtique qui est derrière, qui est impressionnante.
Je ne trouve pas. Les Who, je ne trouve pas que c'est celtique du tout.
Ah si, tu as des morceaux...
J'ai encore la dernière cassette des Who, là, chez moi, je l'ai visionnée il n'y a pas plus tard qu'une semaine.
T'as des types de musique, il y a des consonances celtiques.
Tommy, tous ces trucs-là, c'est pas celtique.
Pas Tommy, mais...
My Generation, c'est pas non plus ça, tu vois. Enfin, bon, t'as peut-être trouvé qu'un titre ou deux était peut-être pensé comme ça, mais... le truc qui fait des Who, là, qu'ils ont pris dans un feuilleton américain, là,
oui,
dans les experts. Dans les ça, experts. C'est les Who aussi.
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Les Who qui chantent Who, c'est drôle.
Alors, tu me disais tout à l'heure qu'au niveau, dans les années 80, il y avait quelque chose de génial, c'était au niveau des guitares.
Oui, les années 70 plutôt, même. parce que 80, elles avaient déjà augmenté un peu.
Elles avaient déjà augmenté.
Mais oui, en 70, moi j'ai eu plein de Strato L que je revendais 3000 balles à chaque fois. Quoi. Aujourd'hui, c'est 30 000 euros pour en avoir une. Tu vois, 3000 francs, 30 000 euros. Si à l'époque j'avais su que ça vaudrait un jour 30 000 euros, à chaque fois que j'en avais une, je l'aurais mis dans un coffre. Tu vois. Oui, c'était vachement, vachement intéressant. Les guitares étaient chères en même temps, parce que c'était difficile par rapport au coût de la vie. Mais le vintage n'avait pas augmenté. Hein.
Oui.
C'est-à-dire qu'une guitare... bon, il était plus dur de se payer une guitare neuve par rapport à aujourd'hui, tu vois. Parce que si le SMIC, il était à 500 francs, la guitare qui valait 3000 balles, il fallait bosser 6 mois sans bouffer, sans payer de loyer pour s'acheter. Maintenant, c'est vrai que le SMIC étant à combien, je sais pas, 8000 balles ou 7000 balles, 8000 balles, je sais pas.
1000 euros à peu près.
À 6500 balles le SMIC.
Oui.
D'accord. Donc oui, 6500 balles, tu te payes une belle guitare hein, quand même, parce que... Ouais, c'est ça. Une Strato d'occasion, ça doit valoir 1000 euros. Hein. Le neuf, je veux dire, à partir de 1000 euros, t'en as. T'en as même qui sont fabriqués au Mexique, qui valent 500 euros, etc. Donc, ouais, ça, c'est plus compliqué de s'acheter une guitare neuve à l'époque, mais par contre, l'occasion, ça chutait terrible. Hein.
Et la qualité ?
Bah, la qualité, c'était la qualité des guitares que tu entends aujourd'hui, qui valent 30 000 euros.
Oui, non, mais ce que je veux dire, par rapport justement à maintenant, une guitare neuve.
Je pense que c'est plus dû à l'envie que tous les gens du baby-boom ont eu quand ils ont léché les vitrines avec ces guitares qui valaient 3-4 000 balles et que le SMIC il était à 200 francs. Quoi. Et que là, personne ne pouvait se payer jamais ça. Quoi. Et moi, à l'âge de 14 ans, j'allais lécher les vitrines à la Gare du Nord. Il y avait un truc de guitare à l'époque qui était là-bas, genre de disco-ball comme à Saint-Lazare, où ils vendaient des disques et des guitares. Et en vitrine, il y avait des Fender, qui étaient à 3000 et quelques balles, avec un SMIC à 300 balles. Quoi.
Mm-hmm.
Donc là, qui se paye ça ?
Est-ce qu'une guitare se bonifie en vieillissant ?
Ouais, il faut qu'un micro il ait 20 ans, minimum. S'il n'a pas 20 ans, c'est moins bien. Parce que comme ce n'est pas des vrais aimants, il faut que les aimants ils aient perdu un peu de leur patate. Pour que ça soit un peu plus chaleureux, un peu plus moelleux.
Oui.
Enfin, pour avoir le son que nous, on aime. Maintenant, des sons, hein, c'est... Nous, on parle mythique parce que ces guitares-là, elles étaient à l'époque des guitares qui ont des références dans tous les tubes. Donc c'est devenu mythique, c'est devenu un standard. Mais aujourd'hui, un super luthier, il peut inventer une guitare qui tue et qui vaudra un petit peu d'argent, mais qui sera peut-être 10 fois mieux qu'une Fender à 30 000 euros. Mais elle ne sera pas mythique. C'est là le problème.
Alors on va en revenir à tes studios d'enregistrement, ton studio d'enregistrement.
Ouais.
As-tu des gens très intéressants au niveau des enregistrements ?
Je n'ai pas fait des grosses, grosses stars. J'ai remixé Un Indien dans la ville avec Tonton David et toute la clique, là. Ça, c'était au Lila. Je fais beaucoup de rap au Lila. J'étais Rap City, là. Sinon, avant, qui j'ai fait Je n'ai pas fait des grosses stars. Hein, non, je veux enregistrer les Coco Girls. J'avais enregistré des gens comme ça. J'avais enregistré les Nakash, évidemment. Mais j'avais enregistré beaucoup de groupes. J'étais sponsor des tremplins de l'Excalibur à l'époque. Donc tous les groupes qui gagnaient le tremplin, ils atterrissaient chez moi.
Ça, c'est intéressant.
J'ai vu beaucoup de groupes sympas. Très sympas.
Alors... Est-ce que toi, guitariste, tu as apporté quelque chose dans tes enregistrements comme ingénieur du son ? Enfin, je veux dire au niveau des qualités d'enregistrement, de...
Ouais, j'avais un plus sur certains, pas sur tout le monde d'ailleurs, mais j'avais un plus sur certains, c'est que j'ai toujours été à cheval sur les voix, sur la précision, c'est-à-dire la justesse, la mise en place, et puis la nuance, le feeling, tout ça, tout ce qu'il faut dans une voix. Et je me penchais vraiment là-dessus. Je savais diriger, je savais être un coach vocal. Et à chaque fois que j'ai bien fait mon travail, on va dire ça comme ça, j'avais généralement le chanteur ou la chanteuse qui venait et en écoutant sa voix qui pleurait. Et ça, c'est un genre de récompense assez, assez fabuleuse, quoi. C'est merci. Et ça m'est arrivé quelques fois. Je dis pas à chaque fois. Hein.
Tu as gardé ton studio d'enregistrement jusqu'en quelle année ?
98.
Donc c'est pratiquement le début de la crise du disque en France.
C'est ça. J'ai trouvé que ça... Déjà, ça m'amusait plus d'avoir un studio. Bah, un matin, en fait, il y a une major qui m'appelle et qui me dit... je ne sais plus quel major, d'ailleurs, c'est Sony ou je ne sais plus. Qui me dit, voilà, je vais faire deux albums pour des artistes. Et puis qui me dit, voilà, bah, je t'appelle parce qu'on était au mois de mai. Et je devais enregistrer au mois de juin, deux albums. Alors, un DA m'appelle et me dit, bon, Léo, écoute, voilà, je t'appelle parce qu'on va... On va retarder un petit peu les séances. Ne t'inquiète pas, c'est toujours toi qui fait le job. Voilà. Mais on a eu des soucis de signature à cause des nanas dans le groupe. Voilà. Je dis d'accord, ok, pas de problème. Je raccroche. Je réfléchis deux secondes et je dis j'arrête. C'est tout. Et j'ai vendu mon studio en trois semaines, donc des pièces à Lenny Kravitz, à pas mal de gens comme ça. J'avais des choses assez rares dans mon studio. Très rare. J'avais des 1073 Nive, j'avais un rack de 8, puis un rack de 2, j'avais des compresseurs paille, un rack de 6, c'est très rare aussi ça. Et tout ça, c'est Kravitz qui a récupéré.
Ouais, et qu'est-ce que t'as fait après ?
Alors bah après, quand t'as 50 piges et puis que tu sors de toute cette expérience-là, ton horizon, c'est un peu, je vais dans le mur quoi, quand même. Donc, bah, je me suis laissé aller pendant une petite année parce que j'avais un peu de fric. Du genre, j'oublie tout et puis... Voilà. Et après, il y a des potes à moi qui m'ont dit « Mais putain, tu t'y connais en matos, tout ça. Tu devrais vendre du matos parce que c'est vrai que tu t'y connais vachement. Bah, » Je me suis dit « Ouais, ça, d'une certaine manière, ça me ferait rester dans ce métier. » Puis voilà, j'ai vendu du matos. Et puis, bon, maintenant, j'en suis un peu revenu. Et puis, je me réattache à ma guitare. Voilà. Je redeviens guitariste.
Ah oui. Ouais. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais les yeux étincelants parce que tu t'es acheté une vieille guitare à Pigalle ou je ne sais plus où.
Une Jazzmaster de 1966 qui sonne d'enfer.
Et tu disais que tu prenais un pied extraordinaire en jouant avec elle.
Oui, et une Telecaster. Et j'ai racheté une Strato, une télé et une Jazzmaster. Tout ça, c'est des vieilleries. Et je suis éclaté tous les jours. Je refais mes gammes, comme à la grande époque. Voilà. Parce que quand t'es professionnel, les gens ne le savent pas, mais... Le matin, c'est pas pour bailler, c'est pour travailler les doigtés, les tendons de ta main, avec les écartements, les gammes pourries qui te rendent dingue, que tu rates 9 fois sur 10, tu vois. C'est ça, la vie d'un professionnel. C'est pas de monter sur une scène.
Alors, une nouvelle carrière ?
Une nouvelle fin de carrière, peut-être, ouais. Je dis peut-être, parce que c'est pas ce qu'il y a au bout. La vie est une grande aventure.
Mais quand tu vas voir tes amis qui ont des studios d'enregistrement et autres, ça te donne pas envie
De refaire un studio ?
Pas de refaire un studio, mais de refaire...
Ah, de jouer ?
De jouer, de refaire des enregistrements et autres.
Ah, si, grave. Ah, si, grave. Ah, oui. Ah oui, que ça donne envie. Parce que derrière ça, il n'y a pas que l'envie. Il y a l'habitude. Il y a aussi le fait de vouloir toujours créer quelque chose de nouveau et de mieux qu'avant. Cette espèce de dépassement qu'on a tous à travers nos métiers respectifs. Ça joue beaucoup.
Bien.
Voilà.
Et bien sur ces mots, merci beaucoup Léo.
Moi, je t'en prie.
Et puis, ben, bonne continuité, bonne suite.
À la revoyure. Dans tes
entreprises. Et à la revoyure, effectivement. Voilà. Alors, c'était Autre Radio, Autre Culture. Et merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Au revoir.
Au revoir.
Autre Radio, Autre Culture.